RFI, 7h42, en temps universel. Tout de suite, les sports. Avec vous, Victor Messistrano. Et d'abord du football, les champions d'Afrique sont en stage au Canada.
La Côte d'Ivoire jouait cette nuit un match amical à Toronto contre la Nouvelle-Zélande. Défaite 1-0 des éléphants malgré une nette domination. Écoutez la réaction de leur sélectionneur Emers Faye.
Le communiqué disait que la Fédération congolaise de football ne reconnaissait pas avoir engagé une équipe nationale.
Alors, c'est pas le son d'Emers Faye, on va peut-être l'entendre un petit peu plus tard dans ce journal des sports. En attendant, on parle de basket, Julien ?
Oui, si vous voulez, on retourne à la Basketball Africa League, par exemple, début des quarts de finale aujourd'hui à Pretoria, après deux journées de matchs de classement.
Un match que les River Soopers du Nigeria ont perdu hier face aux Tunisiens de l'US Monastir, 89-81. Désormais, comme les 7 autres équipes en lice, ils n'ont désormais plus le droit à l'erreur. Et pour cela, ils peuvent compter sur un renfort, l'international guinéen Ahmed Doumbia, l'ailier de 35 ans qui a rejoint l'effectif pour ses phases finales. Claire Bargelès.
Après une saison compliquée en France, au sein du club de Chartres, qui affine dans la zone de relégation du championnat de deuxième division, Ahmed Doumbia savoure de pouvoir vivre l'aventure de la balle comme arrière du club nigérian.
Bah c'est magnifique, hein, c'est une vraie bouffée d'air dont j'avais besoin, de pouvoir recréer des liens avec des nouveaux coéquipiers, et ça permet aussi de pouvoir avoir des sensations dans un basket peut-être qui me correspond aussi, où je joue à ma position, donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien.
Lui, qui est aussi international guinéen, a vu cette compétition continentale de basket prendre peu à peu de l'ampleur.
Je pense que année après année, la balle elle grandit, elle prend une très bonne réputation en dehors du continent. C'est une vraie opportunité pour nous qui sommes là-bas, et puis pour les jeunes montants aussi, de voir que en fait il y aura peut-être une ouverture aussi en Afrique, et que chaque championnat se développe au fur et à mesure là dans les différents pays d'Afrique. C'est très bien représenté là la balle en tout cas.
Et pour son entraîneur au sein des Rivers Hoopers, Ogo Odaudu, le joueur de 35 ans amène une plus-value importante à l'équipe.
Vous avez vu qu'il nous a offert de bonnes minutes aujourd'hui, à la fois en attaque et en défense. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment lors de la conférence au Maroc. Et nous avions besoin de personnes qui évoluent à ce niveau. Je sais qu'il peut être encore meilleur. Tout ce que je peux dire, c'est garder un œil sur lui lors du prochain match.
Repos aujourd'hui pour les Rivers Hoopers avant d'affronter en quart de finale le club APR du Rwanda ce lundi. Claire Bargelès de retour de Pretoria, RFI.
Et aujourd'hui, les Libyens d'El Ahly Tripoli jouent leur place en demi contre les Cap-Verdiens du Cri All-Star. Et les Égyptiens d'Al Ittihad d'Alexandrie affrontent le FUS de Rabat. Et puis la nuit prochaine, toujours en basket, mais aux États-Unis, place au match 2 des finales de la NBA. Les Pacers du Camerounais Pascal Siakam mènent 1-0, Julien, contre Oklahoma City.
Et on revient au football, comme promis, on reparle donc de la Côte d'Ivoire en déplacement au Canada.
Oui, la Côte d'Ivoire qui a été battue donc par la Nouvelle-Zélande 1-0, alors que les éléphants se sont créés de nombreuses occasions. On écoute la réaction d'Emers Faye, leur sélectionneur.
On a manqué de précision dans les derniers gestes, que ce soit les centres, les passes, les dernières passes, les orientations, les choix. On a réussi à sortir le ballon comme on voulait, mais dans les 30 derniers mètres, on a été trop défaillant, que ce soit techniquement ou que ce soit même tactiquement sur les choix de jeu. Quand on devait centrer, on n'a pas centré. Quand on devait dédoubler, on l'a pas fait. On a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. Il y a des jours comme ça où vous arrivez à avoir des situations, mais il y a toujours un pied, un tibia, un genou de l'adversaire pour gêner. Après, derrière ça, on a manqué peut-être de lucidité.
Des propos recueillis par Yoann Gourlet.
Et le journal des sports signé Victor Messistrano. Bonne journée.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohen.
Et à la une de l'info ce matin, une décision de Donald Trump volontairement incendiaire. Selon le gouverneur de Californie, le président américain a annoncé cette nuit le déploiement de 2000 membres de la garde nationale à Los Angeles, où des heurts ont éclaté lors de manifestations contre des arrestations massives d'immigrés en situation illégale. Dans la bande de Gaza, 36 morts de plus hier dans les bombardements israéliens, 6 personnes tuées notamment à proximité d'un point de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation sous contrôle israélien et américain, déjà marqué par de nombreux morts au moment de son lancement. Israël a ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers et l'OMS s'inquiète d'un effondrement du système de santé dans le nord de la bande de Gaza. Gaza, il n'y a plus d'hôpital en service dans la zone, alerte l'Organisation mondiale de la santé. En Colombie, c'est un attentat. Selon le gouvernement, un prétendant à la présidentielle de l'an prochain blessé à la tête lors d'une fusillade. Le sénateur conservateur Miguel Uribe était en meeting à Bogota. Il se bat pour sa vie, déclare sa compagne. Et puis en France, la fin de Roland Garros, c'est du tennis et Coco Gauff a renversé hier la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka en finale dames. Dénouement chez les messieurs. Aujourd'hui, l'Italien Yannick Sinner va tenter de renverser l'Espagnol Carlos Alcaraz. C'est à 13h, temps universel. Et alors que ce 8 juin marque la journée mondiale de l'océan, alors que la conférence de l'ONU sur les océans s'ouvre demain à Nice, les regards du monde entier se tournent vers les grands enjeux maritimes de demain. Montée des eaux et des températures, surpêche, pollution, gouvernance partagée des mers. Mais derrière ces défis globaux, il y a aussi les réalités variées de chaque littoral, de chaque pays côtier, qui entretient avec l'océan une relation unique. Notre tour du monde des correspondants se penche ce dimanche sur ces peuples qui vivent avec et souvent grâce à la mer, comme au Japon, archipel aux 6852 îles où la mer est à la fois nourricière, source d'ouverture mais aussi d'isolement. Elle est vénérée dans le Shinto, religion animiste, mais aussi crainte en raison de sa force destructrice. À la fin du siècle dernier, le Japon a même instauré un jour férié dédié à la mer, Frédéric Charles.
En juillet, le Japon célèbre le jour de la mer. On nettoie les plages, des prêtres shinto prient la divinité de la mer afin d'assurer la sécurité des baigneurs. Dans le shinto, l'homme et la nature sont placés dans une situation de communion inséparable. De nombreux sanctuaires shinto sont dédiés aux divinités de la mer. À Osaka, l'un des plus grands sanctuaires, se veut le protecteur de la mer et des marins. Il a des liens avec le commerce maritime et la poésie classique. La mer est une source d'inspiration pour les poètes et les peintres. À l'exemple de la grande vague de Kanagawa, la célèbre estampe de Hokusai. L'artiste saisit l'instant où la vague gigantesque est sur le point d'engloutir des bateaux de pêcheurs et peut-être aussi le mont Fuji. Selon des interprétations, la vague symbolise la beauté écrasante de la mer, l'impuissance de l'homme face au déchaînement de la nature, comme en mars 2011, lorsque les vagues géantes détruisirent le nord-est du Japon et la centrale nucléaire de Fukushima.
Frédéric Charles, à Tokyo, l'Égypte aussi entretient avec la mer un rapport intime et historique. Elle a façonné le pays depuis l'époque des pharaons, Alexandre Bucianti.
La Méditerranée et la mer Rouge ont largement participé au développement de la civilisation pharaonique. Le cèdre du Liban et la gomme à coller de la corne de l'Afrique ont été indispensables pour ériger les monuments égyptiens. Mais cette tradition maritime disparaît avec la conquête de l'Égypte par les Arabes, des Bédouins peu attirés par la Grande Bleue. On déserte donc progressivement les côtes pour se concentrer autour du Nil et du Delta. Ce n'est qu'avec Mehmet Ali au début du 19e siècle que l'Égypte va renouer avec son passé maritime. Aujourd'hui, avec la nouvelle capitale administrative, le cœur de l'Égypte se déplace à nouveau vers la mer, plus précisément vers le canal de Suez, le canal des deux mers.
Alexandre Bucianti au Caire et sur le continent, le Sénégal compte plus de 700 km de côte. L'océan est une toile de fond, un gagne-pain, mais aussi l'objet de croyances et de prières, Juliette Dubois.
Pour les communautés côtières sénégalaises, notamment les Lébous de Dakar, la mer est sacrée. Traditionnellement pêcheurs, l'océan est pour eux une entité source de vie et de subsistance. La mer est aussi un lieu spirituel pour la confrérie musulmane des Layens. Ces fidèles considèrent l'océan comme purificateur. Ils y font des ablutions rituelles et les mausolées de leurs saints bordent l'Atlantique. Au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, la divinité Mamiwata, mi-femme, mi-sirène, est également vénérée à travers des offrandes de parfums, de fruits et de fleurs déposées en bord de mer. Mais l'océan Atlantique est aussi devenu un cimetière. En 2024, près de 10 000 personnes ont péri ou disparu en tentant la traversée vers les îles Canaries sur des pirogues, faisant de cette année la plus meurtrière jamais enregistrée. La surpêche industrielle et artisanale a appauvri les ressources halieutiques, poussant de nombreux pêcheurs à tenter de rejoindre l'Europe. Malgré les risques, beaucoup affirment préférer mourir en mer que de vivre dans la misère.
Juliette Dubois à Dakar, et puis on termine en Europe et au Portugal, un pays qui s'est tourné vers la mer pour s'étendre de longue date. Avec ses 950 km de côte, les Portugais se sont vite lancés à l'assaut des vagues, Marilyn Darcy.
Le Portugal s'est lancé dans l'exploration maritime à grande échelle au XVe siècle. Ce fut l'ère des grandes découvertes de prestigieux navigateurs. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama et Pedro Álvares Cabral ont donné de nouveaux mondes au monde, comme le dit une expression courante. C'est un poète navigateur, Luís de Camões, qui en a écrit l'épopée et créé ainsi le mythe fondateur des maîtres de la mer. Les audacieux découvreurs et les courageux pêcheurs ont payé un lourd tribut aux océans. Les églises portugaises regorgent d'ex-voto représentant des naufrages survenus pendant les campagnes de pêche à la morue au large du Canada ou à la baleine, autrefois près des Açores. On organise toujours des processions maritimes pour protéger embarcations et marins. La mer est aussi au cœur du fado, né dans les ports pour évoquer la nostalgie qu'elle inspire, la fascination et le fait qu'elle soit dévoreuse d'hommes et d'amour.
Marilyn Darcy au Portugal, notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez en ligne comme chaque dimanche. Et un mot pour vous rappeler aussi que la conférence des Nations Unies sur l'océan sera à suivre sur RFI tout au long des discussions avec notre service environnement. Et demain matin en édition spéciale avec Anne Cantner en direct de Nice de 6h10 à 7h temps universel. Et dans l'Afrique en marche, ce matin nous sommes à Abidjan où depuis 2023, un centre accueille avec bienveillance les femmes et les enfants victimes de maltraitance, de violence ou d'agression sexuelle. Akwabamousso est un refuge mais aussi un lieu où l'on apprend à se reconstruire. C'est un reportage signé Frédéric Garin.
C'est une des rares associations, peut-être même la seule de ce genre en Côte d'Ivoire, qui propose un centre d'accueil pour les femmes et leurs enfants victimes de violences, toute forme de violence, au sein de la cellule familiale. Akwabamousso, deux mots forts de signification pour Maureen Grisot, cofondatrice et directrice de l'association.
Ça veut dire bienvenue à la femme dans deux des langues principales de la Côte d'Ivoire, en langue akan et malinké.
C'est lorsqu'elle était journaliste en Côte d'Ivoire que Maureen Grisot a constaté le dénuement dans lequel se trouvaient les femmes victimes de violences conjugales. Aussi a-t-elle créé à Cocody, avec d'autres associés, ce centre qui prend soin des femmes maltraitées.
Il était fondamental de créer un centre dans lequel une femme ou un enfant qui a subi une violence peut trouver toutes les réponses dans un même endroit, gratuitement, sans avoir à affronter des jugements et des paroles malveillantes. Une fois qu'on a répondu à l'urgence liée à la violence, on s'est rendu compte que plus les femmes sont vulnérables économiquement, plus elles sont exposées aux violences, ainsi que leurs enfants. Donc il était fondamental d'avoir non seulement l'offre de juristes, assistants sociaux, psychologues, sages-femmes, mais aussi la mise en sécurité dans un foyer d'hébergement et trouver des solutions pour qu'elles puissent sortir de ce foyer dans des conditions qui lui permettent de gérer sa famille comme elle l'entend et de ne plus retomber dans le cycle des violences.
Au centre d'accueil, il y a une crèche et aussi un atelier de couture pour aider à la réinsertion professionnelle. Cette femme, qui souhaite rester anonyme, se félicite d'y avoir appris un métier et d'avoir surtout raccommodé un peu de son amour propre.
Oui, ce centre a été pour moi très bénéfique. C'est très utile parce que je me dis que ce que j'ai appris aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir le faire en étant hors de ce centre. Je suis contente parce que moi qui n'avais pas d'importance aux yeux des autres, aujourd'hui, grâce à Akwabamousso, je sais que je suis importante parce que j'arrive à montrer ce que j'ai acquis à d'autres femmes.
Nana Sila Koulibaly, experte comptable, conseille et accompagne ces femmes dans leur projet de s'émanciper économiquement en construisant leur avenir professionnel.
En fait, je suis très émue à chaque fois que je viens ici parce que je suis contente qu'elles ne soient pas réduites qu'au fait qu'elles sont victimes de violences. Elle et moi, on n'a pas ce genre de discussion. On est vraiment très basé sur le business. Et c'est des femmes qui ont des rêves, c'est des femmes qui ont des compétences, c'est des femmes qui ont envie de faire des choses. Et je leur apprends à vraiment se forger un mental d'entrepreneur pour vraiment passer à une étape supérieure de reconstruction. On a sélectionné 4 femmes parce qu'on en a eu un gentil bailleur qui a voulu mettre à disposition des fonds pour financer le lancement de leur business.
Qui est gentil bailleur? Parce qu'il est gentil, on peut donner son nom.
Oui, c'est la Fondation Vinci. C'est vraiment des personnes très formidables déjà parce qu'elles ont mis aussi en place un mentorat pour ces dames-là. Elles sont très impliquées et tout ce qu'elles veulent, c'est vraiment voir ces dames-là s'en sortir et devenir autonomes.
Autre profil de femme secourue, cette quinquagénaire et son fils battu par un mari violent, ont trouvé refuge à Akwabamousso.
Vous savez, divorcer en Afrique ou quitter son foyer en Afrique, c'est comme si tu commettais un crime. Voilà, il n'y a personne qui veut te recevoir. C'est pour ça qu'on garde le silence. Voilà, on subit. C'est pour ça qu'on subit jusqu'à ce que mort s'en suive quelquefois. Donc, si je n'avais pas eu Akwa Bamousso pour me soutenir, je serais encore là-bas ou bien peut-être déjà partie.
Au fil de la visite, Maureen Grisot rappelle la philosophie de son centre.
Il n'y a rien de linéaire, en fait. Il y a tellement de galères dans la vie. On est en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de filet social. Donc, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'on ne peut pas tout sauver, on ne peut pas tout changer. En revanche, nous, notre rôle, c'est de convaincre les femmes qu'elles peuvent avoir confiance en elles et de les aider à trouver leur voie, à trouver les moyens d'être fières d'elles.
Motif de fierté pour Akwa Bamousso. Depuis 2023, le centre a accueilli près de 350 femmes et enfants victimes de violences et 93 femmes ont bénéficié d'un programme d'autonomisation et de réinsertion économique.
Et si vous êtes victime de violence, si vous souhaitez contacter ce centre à Abidjan, Cocody, je vous donne son numéro 225 07 69 84 84 84. Vous le retrouvez aussi sur RFI.fr à la rubrique L'Afrique en marche. Il est bientôt 8h en temps universel et comme chaque jour, RFI Matin se termine en musique avec le Camerounais Diez Mbangé et le titre Mané dans la sélection du mois de RFI.
Na mile ena sinke na binyon bina miantike ni abeti si ukakana to inine ubangi mialeba na sembu wemi honyoke ni kabami na ene ukabanyam ni unno awe mi mulema noven minuta Batata baka miyamale anindi Bisa ya yiki uoko Basoko baka miyamale anindi Bisa ya yiki uoko Mane ununaya nae Mile ena sinuke na binyon bina miatike ni abeti si ukakana to inine upangi mialeba batata baka miamale anindi misa ya yiki uoko basoko baka miamale anindi
Diez Mbangé, le titre Mané dans la sélection du mois de RFI. Et la fin d'RFI Matin, merci à Steven Elsley, à la réalisation de ces 3 heures. Demain, comme tous les lundis, c'est Andréane Mellard que vous retrouvez dès 5h, temps universel pour une nouvelle semaine. Et d'ici là, je vous rappelle votre rendez-vous foot du jour, la finale de la Ligue des Nations Portugal-Espagne, à suivre en direct et en intégralité sur RFI dès 19h, temps universel. Très bon dimanche, à l'écoute de la Radio du Monde.
Venez célébrer la fête de la musique le 21 juin prochain et participez à cet événement festif dans le monde entier autour d'une programmation de concerts gratuits. Un événement organisé par le ministère de la Culture. Plus d'informations sur fêtedelamusique.fr. En partenariat avec France Média Monde.